Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Où est-ce qu'on va aujourd'hui ?
Des volcans, de beaux cottages, je ne sais pas, des décors, le Guatemala.
On va au Guatemala, Maurice, mais enfin le Guatemala c'est grand, on se dirige de quel côté ?
Ah ben on va faire un itinéraire de rêve, on va tenter de voir peut-être un des plus beaux lacs du monde, et dans un décor fantastique que j'évoquais avec des volcans de forme absolument parfaite, des falaises abruptes, et puis des coteaux verdoyants qui s'étagent comme ça entre les mille pas. Vous savez, la mille pas, ce sont ces champs de maïs et puis des villages comme ça qui sont répartis un peu partout. Et puis, on va se laisser prendre par des impressions qui lorsqu'on voyage au Guatemala, sont certainement parmi les plus fortes. Lorsqu'on aborde ce lac, il y a d'abord une question de saison. Si vous allez, je ne sais pas, moi je choisis volontiers la saison des pluies parce qu'il y a beaucoup de mouvements de nuages, des changements d'éclairage. Mais l'idéal, je dirais que c'est novembre, mai, novembre, avril, parce que là, vous avez un ciel. C'est un des décors les plus fous que je connaisse au monde.
Donc au mois de novembre, là-bas, au Guatemala.
Tout à fait. Donc, je veux dire par là que c'est la saison sèche pour ce pays. Et en l'occurrence, si je place le décor, ben, vous savez, un peu dans les couleurs lac, hein, un bleu, un vrai bleu, qui paraît un peu s'avancer vers vous. Et devant, vous découpez carrément dans du carton solide ces formes volcaniques parfaites. Et en deçà, eh bien, vous mettez une scène qui serait un lac que vous mettez en bas d'un forum ou en bas d'une arène, comme ça, parce que vous êtes vous-même posé sur une falaise. Ça, c'est le décor parfait. Parce que je dis décor de théâtre et je donne cette impression d'arène, de décor grec. Un peu comme quand on se trouve au sommet de Taormina et qu'on voit ce théâtre et que derrière il y a la mer et en même temps le décor de la ville, eh bien c'est un peu l'impression qu'on a lorsqu'on découvre le lac Atitlan, lorsqu'on vient de Chichicastenango où nous étions la dernière fois, lorsqu'on vient d'Antigua, de Guatemala. C'est la première chose qui choque lorsqu'on descend doucement vers le village de Sololá, qu'on visitera, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté balcon, c'est-à-dire on aime bien rester sur cette terrasse avant d'aborder véritablement le lac et les rives du lac. Et s'il est comme cela, ce lac, eh bien, c'est tout simplement parce que ces volcans se sont formés de façon presque spontanée entre le Pacifique, qui est pratiquement à zéro. C'est-à-dire, imaginez une longue bande de terre basse, comme ça, qui plonge d'un seul coup dans le Pacifique. En quelques centaines de mètres, c'est pas très large, hein, la côte pacifique, je dis, elle descend rapidement, parce qu'on le voit même lorsqu'on aborde la côte elle-même. C'est-à-dire, quand vous descendez dans les vagues, quand vous descendez dans l'eau, vous vous rendez compte qu'au bout de 5-6 mètres, vous n'avez plus pied du tout. C'est-à-dire que c'est une descente assez vertigineuse. Ah, ouais. Et puis, des vagues qui font 2,50 mètres de haut et qui vous arrivent en plein sur la figure, prouve qu'effectivement, il y a une déclivité très forte. Alors, cette déclivité est accentuée par cette chaîne de volcans qui est apparue de manière totalement artificielle. On a l'impression qu'on a posé cela comme si on voulait créer une coupure. Et cette coupure elle-même, vis-à-vis de la Sierra Madre et des premières montagnes qui sont à l'arrière, à votre arrière, puisque vous êtes en train d'admirer le paysage depuis la terrasse, eh bien, c'est comme si on avait planté cela, et il y en a spécialement trois, qui petit à petit, en étant rentré en éruption, ont bouché carrément le fond de cette dépression qui petit à petit s'est remplie d'eau.
Donc là, si j'ai bien compris, on est en hauteur. On est à combien d'altitude ?
Ben nous, on est à 2000 et quelques, et puis oui, le lac est à 1500 et les volcans montent à 3000. Mm-hmm. Donc vous voyez un petit peu cette impression comme ça de décor très serré, parce que le lac n'est pas très profond, il y a un estuaire au fond qui va du côté de Santiago à Titlan, mais c'est surtout cette impression de vision rapprochée. C'est quelque chose de très étrange et je crois qu'on oublie plus là. Moi j'avoue que je préfère l'aborder ou le faire découvrir vers 4, 5, 6 heures selon la saison. C'est-à-dire au moment où le soleil se couche, et il se couche là juste à votre droite, derrière ces volcans. Et alors là, ça donne un côté silhouetté encore plus fou. Les gens peuvent se planter sur la terrasse, sur le Mirador par exemple, avant d'arriver à Panarachel, qui est la petite station touristique, qui est un village indigène qui s'est transformé petit à petit, parce que c'est vraiment l'endroit où la route débouche comme ça. Vous imaginez ces virages vertigineux en épingle à cheveux pour d'un seul coup passer de 2000 à 1500.
À part ce village, donc pour les touristes, hein, mm-hmm. On y vit autour de ce lac.
Alors c'est un village, on l'imagine toujours, on donne toujours des formules un peu légendaires. On dit qu'il y a 12 villages comme les 12 apôtres. Il y a tous portent des noms de saints, San Marcos, San Lucas, Santiago. C'est vrai que ce sont les noms des gens qui ont accompagné Jésus, mais il y en a aussi au féminin, bien sûr, Santa Lucia, enfin... On a quelques exceptions, il faut bien confirmer la règle, mais aussi San Pedro, comme quoi mm-hmm. on est quand même assez proche de cette idée d'avoir semé de façon hispanique sur les noms précolombiens les différents noms des saints principaux. Et je dirais que cette façon d'avoir éparpillé ces villages autour donne aussi une ambiance extraordinaire, parce qu'il y a peu de routes. C'est-à-dire qu'elles sont très difficiles, ou alors ce sont des sentes, ce sont des pistes. Donc on ne peut pas, même aujourd'hui, aborder toutes les rives du lac par voie de terre. Donc immédiatement, lorsqu'on est en bas, on pense aux bateaux. Et
pirogues.
Les bateaux, les pirogues qui sont creusées dans les troncs d'arbres, ça c'est pour le côté indigène. Et c'est un lac assez difficile en fait, parce que lorsqu'on on veut se balader sur cette immense... Je dirais que d'abord c'est un lac très profond. Je crois que c'est important aussi. J'ai parlé de cette dépression qui a été bouchée d'un seul coup. Il fait plus de 450 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment une petite gouille, mais incroyablement profonde.
On doit y vivre, non, de ce lac?
On en vit parce que je parlais de barques de pêcheurs. Donc obligatoirement, dans une région avec un plateau volcanique, avec ses rives qui sont escarpées, cet isolement a fait qu'on ne peut vivre là qu'avec un peu d'agriculture en terrasse et en même temps en étant pêcheur, bien sûr. Il y a toutes sortes de poissons. Il y a malheureusement une carpe, certaines truites qui ont été importées des pays du Nord, je pense au Canada, aux États-Unis, qui ont un peu détruit la faune locale. Mais c'est un lac extrêmement poissonneux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'en parlais comme ça, là, par exemple, quand on va du côté de San Lucas Toliman, qui est exactement en face de notre balcon, eh bien, on voit souvent les Indiens qui partent du plus gros bourg avec Panarachel. C'est les deux bourgs, je dirais, les plus modernes, les plus métissés, les plus acculturés. Et obligatoirement, on a des flottilles de bateaux peut-être plus importantes dans ces deux petits villages que dans les hameaux qui sont aux alentours. Mais de partout, les pêcheurs vont jusqu'au centre du lac, parce que c'est là qu'ils trouvent le plus de bonne chair et de poissons. Mais il faut bien les surveiller, parce qu'en fait, en fonction des périodes de l'année, il y a un vent assez curieux. Vous imaginez bien que dans un endroit aussi fermé, aussi curieux, on a un peu ce qu'on a sur certains coins du Léman, c'est-à-dire cet incroyable courant qui peut se produire à cause des changements thermiques, bien sûr, chaleur très forte, ensuite courant frais du soir, et le chocomile, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement dangereux. Alors si par hasard vous ne voyez aucun pêcheur sur le lac ou que vous voyez les pirogues rentrer, méfiez-vous, il y a des coups de tabac absolument incroyables.
Avis de tempête, hein. Chocomile.
Chocomile, oui, c'est assez joli comme nom, non? Et en l'occurrence, ça rappelle un peu ce qu'on a sur le lac Titicaca, qui est un lac extrêmement dangereux à partir de 4h de l'après-midi, où on peut être pris dans des vagues qui nous surprennent vraiment, parce qu'on ne s'imagine pas dans une petite gouille comme ça d'avoir des tempêtes aussi impressionnantes, et des orages en plus, qui en mauvaise saison tournent carrément dans cette cuvette et créent des mouvements. Et j'ai vécu les plus beaux éclairs et les plus beaux orages, les plus grandes craintes aussi, parce que quand on est au milieu et qu'on n'a pas regardé les petits bateaux, ben je vous assure qu'on est tout content d'imaginer que le vent s'arrêtera une fois. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? As the rain on the streets of Philadelphia.
Alors nous ne sommes pas dans les rues de Philadelphia, nous sommes à 2000 mètres, nous sommes au Guatemala, sur les berges du lac Atitlan.
Ah oui, ciel dégagé, et puis ce caractère. Alors il y a quelque chose à la fois, je crois que c'est ça qui nous trouble, ça nous prend en trip. Ça passe par les yeux, bien sûr, ça passe aussi par le nez, par la peau, parce qu'il y a obligatoirement ces vents, ces chaleurs différentes, ces températures différentes qui vous arrivent dessus, comme ça, qui montent carrément du lac quand vous êtes sur ce balcon, sur le mirador, où tout le monde s'arrête. Naturellement, il y a quelques vendeurs, il y a un peu d'animation, mais en fait, on se met carrément sur le bord, là. Il y a la végétation en dessous de nous, on devine un autre petit village, Saint-Georges, qui est juste en dessous, et puis ensuite, on commence à deviner Panarachel. Il y a de très beaux hôtels à Panarachel, il y a un côté 68 heures, il y a des petits bars, il y a des petits endroits sympathiques. Ça, c'est vraiment la station touristique.
Ah, donc, c'est une grosse structure touristique.
Non, c'est pas une grosse structure, mais c'est une structure quadrillée, comme ça, enfin, quadrillée et bien marquée, qui n'a pas de vraie plage, si vous voulez. On a créé une sorte de port, il y a une petite rivière qui arrive à côté. Non, il y a un côté petite station confortable, avec tout ce qu'il faut. Des boutiques, quand je parle d'hôtel confortable, on peut trouver sa piscine, on peut aussi trouver l'hôtel de
quand
luxe.
Même.
Ah oui, oui, non, attention, c'est un des endroits de villégiature les plus privilégiés du Guatemala, et il y a des gens qui y résident à l'année. Vous avez des galeries d'art, enfin tout ce qu'on peut rêver d'avoir dans un climat idéal, parce que ça, on ne l'a pas vraiment signalé, parce que si je parlais de côté dramatique, c'est qu'en même temps, il y a un côté avenant, c'est ça qui vous prend en trip. Vous sentez qu'il y a quelque chose de fou dans ce paysage, et puis en même temps, vous êtes immédiatement bien, vous êtes enveloppé, et au moment où vous allez descendre à Panarachel, eh bien vous vous rendez compte que vraiment ces paysages qui sont aux alentours, comme ça, qui circonscrivent véritablement cette nappe extraordinaire d'eau, il y a quelque chose de jouissif, quelque chose de très curieux. Et à Panarachel, eh bien, il y a des gens qui restent toute l'année, parce que 1500 mètres, qui est l'altitude du lac, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'idéal absolu. Hein. C'est le printemps toute l'année. Même les colibris ne bronchent pas du printemps à l'hiver.
Ils ne bronchent pas, ils bronzent.
Ouais, oui, ils passent d'une fleur à l'autre, d'un hibiscus à un bougainvillier, à une bougainvillier. C'est vrai que ce sont des endroits qui sont à la fois fleuris, il y a quelque chose de rayonnant comme ça. Même les gens ont l'air plus heureux qu'ailleurs. Hein. Tous les gens qui vivent sur les rives de ce lac ont une simplicité de vie, malgré les difficultés agricoles que j'évoquais tout à l'heure, parce que les terrains sont un peu escarpés. On a quand même l'impression qu'il y a des paradis sur terre comme ça. Et cette région, ça fait vraiment penser à ça. Et en l'occurrence, ce qui touche, c'est ce charme. Comment est-ce qu'on peut le décrire ? Il y a quelque chose de bucolique. Je crois que c'est un des seuls endroits en Amérique centrale où j'ai vraiment pensé à Virgile. On a envie de faire de la poésie, on a envie de sortir son crayon, de sortir ses pinceaux. Et puis, il y a un autre intérêt qui est immense, c'est l'intérêt ethnographique de cette région. Ça, on l'oublie un peu parce qu'il y a des couleurs absolument folles. On va peut-être un peu égrener comme ça le collier des petits villages.
Volontiers, oui.
Et vous verrez que ce côté humain, eh bien, c'est presque aussi impressionnant lorsqu'on part en randonnée que cette beauté des paysages qui vous prend tout le temps. Donc un décor sublime avec des gens merveilleusement beaux et des costumes extraordinaires. Alors moi j'ai envie de m'arrêter avant de descendre, hein. On a déjà fait plusieurs allers-retours depuis le balcon, en tout cas en imagination, parce que le regard plonge sur ce lac et on imagine tout ce qu'on va pouvoir y faire en observant tous ces petits villages qui sont à l'entour, qui sont vraiment semés comme ça. Mais j'ai envie de m'arrêter d'abord à Sololá. Sololá, c'est... Vous savez, on a parlé de Los Encuentros, qui est cet endroit où se séparent les routes. Une qui part sur Quetzaltenango, qui est la deuxième ville du pays, qui monte vers les montagnes, ensuite Huehuetenango, qui peut rejoindre le Mexique.
Le carrefour.
C'est la panaméricaine. Et puis celle qui part sur Chichicastenango, qui plonge dans le vide et qui remonte sur le village. Et puis celle-là, qui monte à plus de 2000 et quelques, et qui, tout à coup, va vous permettre cette découverte. Et par la première cascade de champs, de collines, de quelques pins perdus comme ça à travers les maïs, eh bien, vous découvrez ce lac qui est en dessous de vous. Alors, c'est un endroit où il y a une fête extraordinaire le 15 août, vraiment la Miaou, c'est la fête du lieu, et il y a des foires et des manifestations absolument incroyables. Or en fait c'est pas vrai, parce qu'on peut retrouver cette ambiance pratiquement tous les mardis et tous les dimanches, parce qu'il y a un marché qui est assez extraordinaire, et là c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'habitants, disons on est à 2100 mètres à peu près, il y a un évêché, il y a quelques 5-6 000 habitants dans le village lui-même, donc c'est pas énorme, une église qui a été fondée comme tout ce qui a été fondé après la conquête, dans les années 1540-47 grosso modo, et puis là vous allez retrouver sur cette bordure de plateau cette impression d'être à la fois dans un univers précolombien par l'attitude des Indiens, par le marché où on est par terre, on vend des fruits, on vend des légumes, et puis en même temps d'être assez hispanique, c'est-à-dire qu'on comprend que l'espagnol ait aimé cet endroit, et on a transformé le nom, je vous ai dit que ça s'appelait Sololá. Or Sololá, en langue précolombienne, ça se prononçait avec un T, en fait, les Espagnols l'ont laissé tomber, ça se disait Tzoloya. Et Tzoloya, ça nous rappelle un nom maya qui veut dire Tzot. Alors c'est assez curieux, parce que Tzot, c'est la chauve-souris. Et la première chose que j'ai remarquée en arrivant à Sololá, ce sont les vestes des hommes. Alors c'est de la feutrine, de ton beige très clair, avec, vous savez, un peu comme on fait à Panama, on recoud en surface une toile d'une autre couleur. Hein. Alors on crée une forme noire en relief sur ce fond beige, on fait des motifs en arabesque, et puis dans le dos même de cette veste étrangement coupée, il y a vraiment une chauve-souris qui est dessinée. C'est l'emblème même, c'est un peu le côté totémique des gens de ce village. Et puis ils ont quelque chose qui, immédiatement, c'est pratiquement le premier village où l'on voit cela lorsqu'on arrive.
Donc ça, c'est les hommes qui portent ce costume ?
Oui. Et puis ils ont quelque chose d'encore plus curieux, je disais, c'est la première communauté où on voit ce phénomène, ils ont des culottes courtes, c'est-à-dire qu'ils ont des pantalons très courts, des shorts, mais complètement travaillés, brocardés, brodés. Les femmes ont des huipils qui sont très beaux. Les jours de marché, elles ont des bordures beiges avec un fond rouge, avec des petits motifs intérieurs. Elles portent de grands, on appelle ça des tzouts, ce sont des grands carrés de toile où elles emballent tout. Vous savez, quand on a ce côté un peu baluchon comme ça, quand on arrive, quand on repart, quand on a un marmot et qu'on le porte à l'intérieur, ces tissus sont extraordinaires. Ils font souvent 1,20 m de côté, comme cela. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que le dimanche, si vous avez un peu de chance, tout près de cette église, vous allez retrouver les confréries. Alors, ça, c'est aussi assez incroyable. Les grands confrères de Sololá portent des hautes formes noires, en forme carrément triangulaire. Donc, le côté étroit étant plutôt en bas, ça paraît très étrange. Et des costumes encore plus chatoyants. Et les femmes portent... Alors là, je crois que c'est les plus beaux tissus de coton que j'ai vus. Il y a un coton curieux au Guatemala qui est brun. Mais un brun indescriptible, un brun caramel. Vraiment ce ton caramel qu'elle mélange avec des roses et des rouges pour faire un huipil qui fait presque 1,50 m de large, qui descend comme ça sur les manches. Hein, c'est vraiment de forme tout à fait rectangulaire. Et puis les manches, c'est simplement un trou au coin du rectangle. Alors ça traîne comme ça sous les bras. Ça a une allure absolument folle. Et sur la poitrine et dans le dos, elles ont brodé, en même temps recousu une toile satinée, et souvent de la soie, d'un rose pâle passé, avec quelques lignes jaunes par-dedans. Je vous assure, même les grands couturiers pourraient en rêver. J'ai toujours eu envie d'ailleurs d'imaginer ce qu'on pourrait vraiment faire avec ces tissages à la main.
So those are my dreams, and these are my eyes. Stand tall like a
Nous sommes sur les berges du lac Atitlan.
Presque.
Décrivez-moi un petit peu plus ces marchés.
Alors, j'évoquais le mardi, le dimanche, quand il y a des messes ou qu'il y a une fête religieuse. Il y a le vendredi, qui est le jour où on échange le plus de produits. Donc, vous voyez qu'on a le choix. Moi, je choisirais volontiers le vendredi.
Ça fonctionne toujours, le troc? Parce qu'on en parlait au...
Le troc, je l'ai déjà remarqué à Solola. Les Indiens, entre eux, utilisent encore passablement le troc. Mais finalement, avec nous, non, ils savent ce que c'est que la monnaie. Ils savent même ce que c'est que le dollar. Mais le marché, l'église est plantée comme ça sur la partie la plus balcon qui soit. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment la chute et on a ce décor que j'évoquais tout à l'heure. Alors, le marché se trouve en contrebas, sur la droite de l'église. Donc, s'il y a une procession, s'il y a quelque chose, ils sont obligés de passer près du marché. Et on remplit pratiquement tout le square, c'est-à-dire toute la partie qui fait la place centrale. Et puis, derrière, il y a vraiment des baraquements qui sont en continu. C'est pour ça qu'on peut aller pratiquement chaque jour. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Le vendredi, ça se remplit complètement. C'est-à-dire que des centaines et des centaines de femmes particulièrement viennent de l'extérieur avec tous leurs petits produits, leurs petites pyramides de fruits, de légumes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est je parlais des pantalons des hommes. Alors c'est mélange de couleurs, hein, parce que à Atitlan en face, à Santiago Atitlan, ils portent le pantalon très très court. Ici en fait il est très serré, il peut aller jusqu'au bas du mollet comme ça. Ça donne des allures un peu de coureurs cyclistes, ils sont assez sympathiques. Et puis ils portent encore beaucoup les sandales simples. Alors tous ces produits on les retrouve sur le marché, c'est-à-dire si vous cherchez un tissu particulier, si vous cherchez une paire de chaussures, tous les petits objets qu'on peut rêver d'avoir à la maison, du simple miroir au peigne, enfin tout ce qu'on peut rêver de trouver, on le trouve, y compris le sel, les produits de base. Hein. Donc moi j'aime bien fureter. Je vous avoue que J'ai involontairement beaucoup d'amis à Solola parce que c'est un endroit qui me démange. Quand j'arrive de Guatemala, souvent moi, j'accompagne des petits groupes et je me rappelle d'un événement qui m'est arrivé sur le sommet en sachant que j'avais Solola juste en bas. Il y avait un temps absolument extraordinaire et les gens ont tous envie de prendre des photos déjà avant. Ils ne savent pas qu'ils vont finir plusieurs films après, mais les champs sont déjà tellement remarquables. Avant d'arriver sur la butte, avant d'apercevoir le lac, il y a déjà un côté bucolique et c'est vrai qu'on s'arrête à tout moment. Sans arrêt, il faut planter le frein. Et puis les gens s'éparpillent dans la campagne, ils voient une hutte, ils discutent avec les gens. Le contact s'établit assez facilement. Les Guatémaltèques sont très agréables. Et si on sait les respecter, bien sûr, il ne faut pas les mitrailler. J'entends par là, il faut d'abord établir le contact. Alors souvent, on s'arrête un quart d'heure, 20 minutes. Et puis moi, je flânais sur la route et tout à coup, arrive une moto. Alors, le geste un peu idiot et sympathique, vous mettez au bord de la route, vous levez la main et puis vous mettez le pouce. Je l'ai beaucoup fait dans les années 60-70, mais en l'occurrence, la moto s'arrête. Et puis, j'étais quand même à 50 mètres en avant du bus. Je monte à l'arrière et je m'en vais. Alors, mon chauffeur me connaît parfaitement. Il s'est dit, on va le retrouver à Solola parce qu'il s'arrête toujours à Solola. Et j'ai fait comme ça 5 ou 6 kilomètres avec cette moto. Et puis, j'étais assez surpris parce que d'abord, j'étais un peu coincé. Il y avait un bagage en dessous de moi et tout à coup, je me suis fait piquer à la cuisse et je me suis rendu compte que c'était une seringue. Alors, la chance, c'est qu'elle était neuve et qu'elle était emballée. Mais en l'occurrence, j'étais tombé sur un médecin qui a comme vocation d'aller faire des vaccinations dans tous les petits villages. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque précolombienne, il n'y avait pas de hameau avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une église, un centre, un évêché, une petite capitale de province comme Solola. Au contraire, on était répartis dans la campagne. Alors ça, c'est resté, en fin de compte. Donc vous avez des centaines de petits bourgs qui sont faits de 2, 3, 4 huttes comme ça. Et ce médecin, eh bien, de façon totalement bénévole, il fait partie du centre de santé de Solola, il part avec ses seringues et puis il essaie de vacciner tous les enfants de la région. Alors on a établi un contact comme ça avec quelques kilomètres de moto. Je m'accrochais à lui et puis il y avait ce vent un peu chaud. Et à Solola, on a attendu le bus, bien sûr, et puis on a eu le temps de bavarder et c'est resté un très bon contact pour moi parce que chaque fois que je vais au Guatemala, je sais que je peux apporter quelques dizaines ou voire quelques centaines de kilos d'habits pour les enfants, etc. Mais il faut faire attention simplement de ne pas apporter n'importe quoi puisque tout le monde porte des costumes, hein. Donc il faut qu'ils puissent porter quelque chose dessous éventuellement, un lainage pour l'hiver parce qu'il fait quand même un peu plus frais, et puis des choses pratiques, quoi. Enfin les dessous comme on pourrait les appeler, hein. Mais en l'occurrence, ça rend service. Et puis, petit à petit, on a créé une sorte de réseau comme ça avec des médicaments, enfin, tout ce que ces gens-là peuvent avoir comme besoin. C'est souvent élémentaire. Ça va de l'aspirine à quelque chose contre les refroidissements parce qu'on a souvent un peu de morve comme ça au bout du nez. Et c'est vrai que les infections peuvent être graves. Et puis, surtout pour le côté estomacal et intestinal, parce que quand on vit comme ça en pleine campagne, il y a un faux puits, il y a un petit ruisselet, mais l'eau n'est pas toujours potable, bien sûr, ça c'est toujours un problème. Donc il suffit très peu de choses pour arriver à les soigner. Il suffit d'avoir ce médicament et puis pourquoi pas essayer de passer la frontière pour l'apporter à bon port. J'ai gardé Pedro parmi mes amis et puis il sait utiliser ce qu'on lui apporte.
Parlez-moi encore de ce médecin grand motard du Guatemala.
Oui, avec sa petite moto, j'en reste pas comme ça. Non, mais Pedro, il m'a permis de connaître à la fois les gens du village. C'est lui qui m'a présenté pour la première fois à l'alcalde, c'est-à-dire le maire, mais attention sur le plan religieux, là, qui justement sort pour les grandes processions avec sa cape noire et son fameux chapeau haute forme. Ils ont une façon de se saluer qui est extraordinaire. Ils se touchent la main, ils se font des révérences, ils sortent les seins sur de petites, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des chaises à porteurs, si vous voulez. C'est des seins qui sont souvent miniatures. Ça a une allure absolument folle et très intime comme ça. Et puis ils ont des bâtons de commandement. Il y a vraiment une façon de fonctionner. Parce que quand je dis que ce bourg a 5000 habitants, c'est que Pedro, bon, il a une famille avec plein de marmots. Et tout à l'heure, là, on écoutait cette chanson qui disait qu'un homme aime une femme. C'est un très beau couple d'ailleurs. Son épouse est charmante. Il y a la grand-mère, il y a le grand-père. Enfin, c'est vraiment toute la petite tribu comme ça dans une petite maison en dur, en plein cœur, dans une de ces parties de l'escalier de Solola. Enfin, cette espèce d'ensemble de terrasses, il est un peu en dessous de l'église, et je dirais que s'il a cette vocation et s'il aime tellement s'occuper de façon bénévole des enfants, et qu'il y a 160 000 habitants aux alentours de ce petit bourg de 5 000 habitants. Quand je parle d'évêché, quand je parle de capitale de province, vous comprenez à quel point justement ces gens sont éparpillés comme des grains de maïs dans la campagne. Et lui, il a été très touché parce qu'il a un enfant qui a justement subi un grave dommage physique à cause d'une non-vaccination, enfin un manque de vaccination. Et je crois que c'est peut-être l'événement qui l'a le plus touché finalement dans sa vie d'homme, dans sa vie de couple. Et on sent que c'est un véritable besoin. Il y a des choses curieuses comme ça. À chaque fois qu'il m'écrit, il met une petite image pieuse ou un petit mot qu'il a été chercher chez le curé ou chez le confrère un tel. Ou il me dit, tiens, j'ai vu le sorcier que tu connais, etc. Il a ce besoin à la fois d'offrir et puis de partager et puis de demander avec une parce qu'il demande, genre, bien sûr que ça correspond aussi à un besoin, mais il le demande avec une telle simplicité, un tel désintéressement qu'on se rend compte qu'on n'a même pas besoin de dialoguer par rapport à cela. On a simplement envie de donner le petit coup de pouce et entre hommes, on a l'impression de se comprendre sans avoir forcément à parler. Et il m'a appris un tas de mots en kaktchikel, qui est la langue du coin, parce que chaque village, chaque ethnie, un peu plus bas, on parle
à son dialecte.
Le tsotoril. Mmh. Enfin, c'est assez fascinant de voir à quel point ces gens-là savent s'intégrer lorsqu'ils ont cette façon d'aller chez l'habitant, dans la campagne. Lorsqu'on fait une tournée, par exemple, avec lui, ça m'est arrivé aussi, c'est absolument impressionnant de voir comment on vit dans ces lieux les plus perdus. Hein. Parce que là, obligatoirement, dans une seule hutte, ben, vous vous dites, tiens, il doit y avoir deux ou trois habitants, comme on le verrait chez nous. Et puis tout à coup, vous découvrez qu'il y a 15, 20, 30 personnes dans une seule maison et qu'à côté, il y en a tout autant. Donc finalement, quatre maisons, ça peut faire 100 habitants. Mmh. Alors, si on reprend un petit peu l'endroit, c'est surtout cette impression que la campagne est véritablement habitée en étant déserte. Et lorsqu'on descend, j'évoquais le Mirador de tout à l'heure. Alors, dans ce décor-là, on voit à l'horizon ces trois volcans. Alors, il y a le Tolimán, qui est un volcan qui nous saute aux yeux immédiatement. C'est peut-être le plus marquant. Et lui, bon, il monte quand même à 3100 mètres à peu près. Son voisin, disons, il masque carrément. Hein. C'est comme si vous aviez une silhouette parfaite sur une silhouette parfaite. Vous mettez un Fuji devant un autre Fuji. Et derrière, vous avez le volcan Atitlán, qui lui est beaucoup plus haut, il fait 3500, hein. Mais il a exactement la même forme que celui qui fait 3100, puisqu'ils sont l'un derrière l'autre. Mmh. Donc on a l'impression qu'on a redessiné, vous savez, comme si on avait fait une ombre sur le premier pour décorer le fond du ciel et créer ce volume, enfin cette espèce de volumétrie étrange. Et puis c'est un volcan qui était en train d'éruption, je crois, au 19e siècle, dans les années 1850.
Depuis ?
Il est tranquille maintenant. Mmh. Et à sa droite, ben, vous avez le San Pedro. Oui, qu'on a nouveau des noms de saints. Et le San Pedro, lui, il est un petit peu en dessous de 3000 mètres. Mais alors lui, il est complètement endormi. On a l'impression qu'il va rester très calme. Alors quand on est sur ce mirador et qu'on voit ce décor avec ce petit défilé là au fond du lac, ce lac qui a justement une sorte d'estuaire tout à fait à l'extrémité, comme si on voulait rentrer entre les volcans, et là on devine déjà quelques petites taches blanches, quelques petits riens. C'est Santiago Atitlán, qui est sûrement un des plus beaux hameaux de la lagune et un des plus intéressants sur le plan indigène, un des plus forts aussi, peut-être celui que je connais le mieux, parce que ça fait pratiquement 20 ans que j'y vais systématiquement plusieurs fois par année. Donc c'est vraiment l'évolution de la modernité, puisque la première fois où j'y suis allé, j'ai dû utiliser carrément un 4x4 et qu'il n'y avait même pas de bateau qui traversait depuis Panarachel, qui n'était pas encore une vraie station, à Santiago Atitlán. Maintenant, vous avez carrément des systèmes journaliers qui permettent. Alors, ça crée une évolution.
C'est dû à quoi ? C'est dû à quoi, justement ?
Au tourisme, hein, je veux dire, par là, ouais. C'est un endroit
exclusivement
tellement... Ah oui, c'est un endroit tellement idyllique qu'obligatoirement, aux États-Unis d'abord, au Canada ensuite, en Europe beaucoup, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, les Suisses aiment bien y aller aussi. Mais s'il y a un lieu en Amérique centrale qu'on veut avoir vu un jour, c'est bel et bien ce décor du lac Atitlán. Alors quand on est au Mirador, il y a une chose qui m'a surprise un jour, c'est que je suis tombé sur... on a toujours des poissons pilotes, les petits vendeurs de colliers, ceux qui mettent juste une table avec deux chevalets, en sachant très bien que toutes les voitures, tous les bus vont s'arrêter pour voir le paysage à n'importe quelle heure du jour, je dirais même de la nuit, parce qu'avec une pleine lune et quelques nuages blancs, ça a beaucoup d'allure avec la forme de ces volcans en noir sur ce fond bleu marine du lac, avec ses brillances. Eh bien, puis il y a juste quelques petites lumières, c'est très scintillant, c'est très calme encore, hein, ça n'a pas ce côté, je dirais, cette débauche qu'on a chez nous sur le plan des éclairages, donc ça garde un côté très, très, très souple, très doux. Eh bien, juste à l'arrêt, une fois, un petit gosse me dit... écoute, tu sais qu'on fait des rituels, c'est-à-dire, on parlait de à la fois de religion, il avait lui-même un conflit par rapport aux différentes sectes, on en parlera peut-être à l'occasion, et puis il m'a pris par la main, comme savent le faire les enfants, ça, ils ont la peau un tout petit peu plus rugueuse, là, ils vivent dans la rue, ils sont comme ça un peu n'importe où, et cet enfant m'a pris par la main et m'a dit, viens, il y a une très belle grotte en dessous, et là j'étais un peu surpris dans cette grotte. Thank you. J'ai l'odorat très fin. Je dis, ça fait une vingtaine d'années que je cours dans ces sentiers autour du lac Atitlan. Je crois que j'ai commencé à l'âge de 20 ans, grosso modo. Et c'est vrai que chaque fois que j'y retourne, j'ai d'autres impressions. Mais l'odorat, c'est quelque chose de curieux. Il y a l'odeur des pins, bien sûr, qui sont présents partout. Et puis là, lorsque je descendais, un enfant, quand il est haut comme trois pommes, comme ça, il ne vous lâche plus la main. Hein. C'est qu'il est en petit costume et puis il a décidé que vous seriez son copain gringo. Et il vous a adopté parce que vous parlez bien l'espagnol. Lui, il le parle assez vite et assez bien aussi. Il parle encore la langue locale. Lui, il parlait Kakchikel en l'occurrence. Et parce qu'il faut toujours demander s'ils sont Kiché, Kakchikel ou Tsuturil. Chacun ayant naturellement, on les situe immédiatement. Le costume permet aussi de savoir de quel village il vient. Hein. C'est une sorte de carte d'identité. Et puis, en descendant comme ça.
Mais après, quelle importance de le situer ?
Parce que c'est toujours intéressant de savoir de quelle communauté ils viennent. Parce que les enfants voyagent aussi hein, pour pouvoir vendre quelques colliers. Tout à coup, vous avez quelqu'un qui vient d'en bas ou venir d'en haut ou qui vient carrément des petits villages alentours.
Ils sont livrés à eux-mêmes.
Écoutez, il y a souvent la maman, la grand-maman. Ils traînent là toute la journée. Il faut bien qu'ils s'amusent. Un peu, puis de temps en temps qu'ils peuvent faire une petite balade, ils la font. Et là, c'était pour montrer quelque chose. Et en l'occurrence, c'est d'abord mon odorat qui était attiré. Il y a vraiment une odeur qui nous poursuit au Guatemala. J'évoquais la fête du dimanche, la messe, les processions, etc. C'est le pomme. Enfin, le pomme, c'est le vieux mot maya qui signifie encens. C'est le copal. Hein. Et ça, c'est vrai, quand vous êtes en pleine campagne, comme ça, et tout à coup, vous sentez cette odeur d'encens, comme si vous étiez dans une église, c'est assez curieux. Vous dites, tiens, comment est-ce que c'est possible que là, il y a des fleurs, il y a toujours ce décor bucolique qui intervient, mais Vous dites, comment c'est possible que ça sente l'encens? Et tout à coup, vous arrivez dans la caverne, et l'enfant vous dit, ça s'appelle la caverne du brujo. La cueva del brujo, c'est la caverne du sorcier, carrément. Et en l'occurrence, c'était bien un endroit pour les sorciers. Alors, toutes les parois sont noircies de suie, parce qu'on utilise non seulement l'encens, mais on jette des pains, on brûle du sucre, on fait toutes sortes de choses. Et là, il y a des rituels qu'on retrouve pratiquement dans tous les petits hameaux un peu sacré, et les grottes, lorsqu'elles surplombent un décor pareil, c'est fabuleux. Et alors après avoir vu tout ce culte, carrément, cette cérémonie avec il y avait deux sorciers, il y avait des familles, il y avait des gens qui étaient là pour se faire soigner et qui parcouraient comme ça les lieux sacrés de toute la région, il ne faut pas oublier que rien que dans la province, on a 2000 km² uniquement pour cela, et qu'on peut avoir des dizaines de lieux sacrés comme ça, des sommets, des cavernes, une petite église, une chapelle, un endroit au bord de l'eau, etc., une source par exemple. Et en l'occurrence, on a suivi ensuite toujours des sentes, on court un peu comme des chèvres, comme des cabris en cascade, et on est descendu jusqu'à San Jorge, qui est le petit village en dessous, San Jorge de la Laguna, de la lagune. Et on a suivi en fait, c'est un tout petit village cacciquel aussi, les femmes portent un très très beau huipil rouge avec des bandes jaunes très marquées. Là on est à peu près à 7 km en contrebas, on y arrive très vite parce que ça plonge d'un coup, on n'a qu'à se laisser glisser, et ce qui est fabuleux, c'est qu'on suit en même temps à San Jorge, on suit véritablement une rivière, une sorte de... Il y a des cascades, il y a un vallon, il y a le rio Kinkab, qui lui finit dans le lac, une sorte d'estuaire comme ça, sablonneux, avec de gros galets qui arrive en bas de la falaise. Donc c'est vraiment une chute continue. Et on peut continuer justement ce même chemin à partir de cela. Alors il y a des noms qui font rêver. Vous avez San José Chacaya, vous avez Santa Lucia Utatlan, on a parlé des noms au féminin, il y a Santa Clara de la Laguna qui n'est pas très loin aussi. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut descendre petit à petit comme cela et voir, je dirais qu'il y a surtout ce bruit des torrents, vous savez. Il faut voir le décor, c'est difficile à décrire dans la mesure où vous avez des petites cascades, des petites cascatelles un peu partout comme ça, et puis vous avez des vues sur les champs, sur ces petites chaumières qui sont en adobe dans la région. Dès qu'on est en dehors des villages, tout est en terre battue avec des toits de chaume souvent, et puis tous ces petits champs en terrasse qui plongent parmi des pins avec une sorte de... On a l'impression à chaque fois qu'on a des tableaux, vous savez, ce côté très intimiste, ces paysages un peu japonais. Le Guatemala, on a l'impression partout qu'on a des morceaux comme ça de perfection en miniature. C'est un pays qui est minuscule d'ailleurs, qui donne cette impression de Lilliput. On a l'impression qu'on se promène dans un pays de petits nains. Et c'est toujours impressionnant de le faire à pied justement et de passer d'un endroit à l'autre. J'avais vu par exemple dans le village de Santa Maria à Visitación, ça c'est encore un très beau nom, qui est aussi Conception, enfin on a tous les noms des saints et de la création, et en l'occurrence il y a une fête qui a lieu au mois de juillet, ce sont deux villages qui sont jumeaux, et là ce sont des gens qui parlent quiché. Les quichés ont essayé d'envahir à l'époque précolombienne cette région, ils viennent de la région de Chichicastenango, beaucoup plus au nord même, et ces quichés sur ce promontoire, eh bien il y a vraiment une fête traditionnelle assez curieuse, où on a une fête patronale, où on utilise encore le fameux mât avec les hommes volants qui tournent autour et qui se laissent descendre. C'est ce jeu des voladors qui est lissé. Enfin, à mon avis, c'est quelque chose qui doit correspondre à un ancien rituel voué à la fécondité. Et puis, cette façon de se promener, moi j'ai perdu des semaines à me balader en dehors des sentes connues, en dehors de ces routes. Il n'y en a qu'une ou deux comme ça qui parcourent une partie du lac et qui descendent jusqu'à Penarachel. Mais dès qu'on sort, on peut se perdre justement sur les sentiers où il n'y a que les Indiens. Et aucun touriste. Le seul moyen qu'on pourrait peut-être se le donner la prochaine fois, Frédéric, c'est le bateau. Le bateau qui lui permet d'aborder tous ces petits villages qui ponctuent comme ça cette somptueuse lagune.
On se retrouve dimanche prochain.
Sur le lac Atitlan.
Entre 12h et 13h.